Luc chapitre 24, verset 13. Et voici, ce même jour, je le précise, le jour de la résurrection. Deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 11 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. » Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dites. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à eux-mêmes, ils retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Notre Père, c'est notre prière. Ouvre nos esprits. Illumine les yeux de notre cœur. Afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel, afin que nous comprenions l'infinie grandeur de ta puissance, afin que nous réalisions l'infinie grandeur de ta gloire, afin que nous réalisions l'héritage que tu as pour les sanctifier. Oui, Seigneur, c'est notre prière ce matin. Purifie, brûle encore, Seigneur. Brûle ce qui a besoin d'être consumé, afin que nous ressortions, oui, comme ce cantique de la chorale l'exprimait, tu nous auras fait du bien. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lorsque Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, il nous est dit qu'une colombe est descendue sur lui. Lorsque les apôtres, les disciples ont été baptisés, ce n'est pas une colombe. Jésus n'avait pas besoin d'être purifié, il était pur. C'est pour ça que quand Jésus a été baptisé, quand les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit, c'est comme une flamme qui est apparue sur chacun d'eux. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin d'être purifiés. Jésus n'avait pas besoin de l'être. Mais nous, nous avons besoin de pureté. Quelle que soit notre étape, je ne sais pas où vous en êtes, mais Dieu le sait. Je ne sais pas où vous en êtes, ça fait 3 ans que vous marchez avec Dieu, ça fait 30 ans, ça fait 50 ans, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, Dieu sait exactement où nous en sommes. Et Jérémie, qui parlait avec beaucoup de sérieux et de sévérité même, disait au peuple, « Mais ma parole, la parole de Dieu n'est-elle pas comme un feu ou comme un marteau ?» C'est vrai que parfois la parole de Dieu, c'est comme un baume. La parole de Dieu, c'est parfois comme du lait. C'est pas écrit de désirer le lait spirituel et pur de la parole. Le lait, c'est très facile. Un enfant, un bébé, peut se contenter de lait. Il grandit avec du lait uniquement. Mais la parole de Dieu nous dit qu'elle est aussi un miroir et que nous pouvons nous-mêmes, nous pouvons nous voir dans le miroir de sa parole et apprendre des choses, à condition que nous restions suffisamment devant le miroir pour voir les défauts qui ne vont pas. La parole de Dieu, elle peut être comme une lampe. Ta parole n'est-elle pas une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier? La parole de Dieu, elle peut être une épée. Comme je le disais en introduction, oui, la parole de Dieu, elle est vivante, mais il ajoute, elle est vivante et efficace. Le fait qu'elle soit vivante, ça ne suffit pas. Même si c'est un grand bienfait de la lire, il faut qu'elle soit efficace. Et dans beaucoup de chrétiens, elle n'a aucune efficacité, compte tenu de l'éloignement qu'il y a avec la parole, compte tenu de l'éloignement qu'il y a avec le cœur de Dieu. La parole de Dieu n'a aucun effet, comme un feu n'a aucun effet lorsque nous en sommes éloignés. Si vous êtes dans un jour de froid, il fait moins de 10 degrés dehors, il y a un feu à 100 mètres, vous pouvez dire ce feu il est magnifique, mais il ne vous fera aucun effet, pourtant il y est. Mais le Seigneur il est au milieu de nous. Et ça peut ne faire aucun effet, à tel point que quelqu'un peut dire « mais moi je ne le sens pas, mais moi je ne le crois pas ». Eh bien oui, mais je peux vous dire que si votre cœur est ouvert, vous vérifierez qu'il est au milieu de vous. Vous le vérifierez. Mais il faut être honnête, hein. Notre sœur Madame Loupia, tout à l'heure, priait avant le culte, elle priait, elle disait, Seigneur, tu veux, elle priait une prière de Paul, de David, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Est-ce que nous la voulons, cette vérité? Ou est-ce que nous voulons une parole qui soit bien, qui soit intelligente, intéressante, intellectuelle, même spirituelle, mais surtout qu'elle ne dérange pas trop? Il y a des moments, la parole de Dieu, elle doit nous déranger. Ta parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau? Ah, un marteau! Vous voulez que la parole de Dieu soit comme un ce matin? Tiens donc, comme un baume, du lait, ou comme un marteau, ou comme un feu? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez? Ce que Dieu veut. En fin de compte, vous ne préférez rien si vous êtes spirituel. Seigneur, ce qu'elle doit être. C'est comme ça que vous parlez? Seigneur, qu'elle soit ce qu'elle doit être. En parlant de purifier, lorsque David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui a marché pendant des décennies avec Dieu, il a marché des décennies, un homme hors pair, qui savait, parce qu'il connaissait Dieu, il savait s'en sortir, parce qu'il connaissait Dieu. Mais lorsqu'un jour, après une année d'hypocrisie, il le dit lui-même, de duplicité, une année de comédie, Oui, c'est de David que je vous parle. Lorsqu'un homme de Dieu qui n'aura pas peur d'aller le voir va lui dire, écoute Nathan, tu es cet homme-là. Tu as vraiment péché. Tu as commis l'adultère. Et tu as fait tuer un de tes officiers. Et David, il n'était pas bête, il savait. Écoutez bien. Il connaissait la loi. Qui mieux que lui, presque dans cette époque-là, connaissait la loi. Et qu'est-ce qu'il y avait comme sacrifice pour l'adultère et pour le meurtre? Est-ce qu'il y avait un sacrifice qui pouvait pallier? Non. Il n'y avait qu'un verdict pour les adultères et les meurtriers. C'était quoi? La mort. Et David, tout roi qu'il était, savait très bien qu'il n'y avait pas de possibilité de s'en sortir. Il avait commis l'adultère et il avait fait quelque chose d'atroce, faire tuer un de ses meilleurs officiers. Il savait qu'il devait mourir. Il n'y avait pas à faire. Mais dans son cheminement, il avait appris que Dieu fait grâce. qu'il y a quelque chose de supérieur au sacrifice, c'est cette communion avec Dieu. Et il va prier, vous connaissez le psaume 51, vous connaissez le psaume 32, ce sont deux psaumes qu'il a consignés le jour où Nathan l'a confronté à son péché. Et il va dire, mais purifie-moi Seigneur. Il connaissait Dieu. Et quand je vois, sans mépris, les progrès si petits de beaucoup de chrétiens, c'est la preuve évidente qu'on ne connaît pas Dieu. Parce que quand on connaît Dieu, on ne peut pas ne pas faire de progrès. Quand on connaît Dieu, on ne peut pas ne pas se confier dans le Seigneur. C'est inévitable. Quelqu'un qui connaît Dieu, il est obligé de lui faire confiance. Est-ce que j'exagère? Est-ce que c'est biblique? Oui, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Et mes frères et sœurs, David a été restauré. Il a payé cher, hein, mais il a été béni. Le péché, ça coûte cher. Le péché, il l'a payé. Même si Dieu, s'il est resté cet homme de Dieu, s'il est redevenu cet homme de Dieu, s'il a terminé sa course vraiment dans la bénédiction, il a payé cher son adultère. Et le diable, quand on veut pécher, je pense qu'il doit nous faire, mais c'est pas grave. Il ne va pas vous dire ce que David a payé. Mais regarde, David, il a péché. Oh, il a péché, Dieu l'a béni. Moi, je trouve qu'il l'a payé vraiment, vraiment, vraiment cher. Mes frères et sœurs, ce cantique qu'on a, ce cœur qu'on a chanté brûle. Est-ce que c'est vraiment votre prière? Seigneur, il faut que tu continues à me purifier. Il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Il y a des choses, même si je suis un disciple, je vous le dis, c'est presque rassurant de voir que David, tout le monde estime qu'à cette époque-là, il avait au moins la cinquantaine. Et pourtant, il avait marché avec Dieu, il avait fait des exploits, il avait fait des choses extraordinaires quand il a tué Goliath, etc. Il a fait des choses extraordinaires. Mais il a eu besoin que Dieu le purifie. Et il y a un moment donné, on est conscient, si on veut aller plus loin, si on veut être utile, on a besoin de faire la même prière, même si on n'a pas commis des péchés graves. On a quand même besoin de dire, Seigneur, purifie-moi. Il y a des temps comme ça où le Seigneur il nous arrête, et parfois il faut beaucoup de temps. Quand je préparais cette méditation, je pensais à un certain homme qui a 40 ans, la Bible dit, il était devenu grand. Ça ne veut pas dire qu'il mesurait 1,85 m. Quand il est dit qu'il était devenu grand, c'est-à-dire qu'il était prêt à être le successeur de Pharaon. Il était puissant, en parole, en sagesse, il était intelligent. Quand vous voyez comment le Saint-Esprit parle de Moïse à 40 ans, c'est impressionnant. Oui ou non? Quand vous lisez ce qui est écrit, c'est extraordinaire. Vous dites, voilà le gars qu'il faut, voilà l'homme de Dieu qu'il faut pour sortir le peuple d'Égypte. Et lui aussi, lui, il a pensé que c'était ce qui allait arriver. Il pensait que les gens, ils allaient comprendre qu'ils pouvaient faire quelque chose. La seule chose qu'il a fait, il a tué un Égyptien. Il a tué un Égyptien. Il aurait pu en tuer 3 ou 4 ou 10 ou 100. Ça ne changeait rien au problème. Et vous savez ce que Dieu lui a demandé? Comment Dieu l'a conduit? Dieu a attendu qu'il ait 80 ans. 80. 40 ans chez son beau-père. 40 ans, lui qui allait devenir pharaon numéro 3 certainement. Il va devenir un simple berger inconnu et surtout il va vieillir quand il va parler. D'ailleurs, il va parler maladroitement. Il va dire à Dieu quand il a... Mais t'as vu comment je parle? Je bafouille, je bégaye. Envoie qui tu voudras. Jusqu'au jour. Écoutez bien. Ou alors qu'il était en train de travailler. Parce que ça aussi, je crois qu'il faudrait quand même y réfléchir. Il était en train de travailler, c'est le moment de Dieu, c'est le moment du Seigneur. Et je crois qu'il y a des rendez-vous, il vaut mieux pas les manquer. Alors qu'il est en train de garder ses moutons, ça fait 40 ans qu'il fait ça, 40 ans. Ils sont même pas à lui. Tout d'un coup, il y a un buisson, je veux dire, on ne s'arrête pas devant un buisson. Vous arrêtez-vous devant un buisson? Mais quand la présence de Dieu est là, on peut s'y arrêter. Nous, on s'arrête devant les séquoias. On ne s'arrête pas devant les buissons. Il s'arrête devant ce buisson. Pourquoi? Parce que ce buisson, il était en feu. Parce qu'il y avait un feu. Parce qu'il était en feu. Parce que Dieu était là. et je suis convaincu que pour plusieurs d'entre nous, je ne sais pas quel âge vous avez, depuis combien de temps vous gardez les moutons, vous êtes là, vous travaillez, mais qu'est-ce que je ne sais pas combien, ce qu'il a vécu pendant ces 40 ans. Parce que je pense qu'il a dû, y penser à des choses. Et si je n'avais pas tué l'Égyptien, et si je n'avais pas ci, et si je n'avais pas fait ça, et si je m'étais pris autrement, ils auraient compris. 40 ans de silence, parce que le problème en plus, ce n'est pas le temps. C'est que dans l'épreuve, une belle épreuve, une vraie épreuve, c'est que Dieu se tait. Quand dans une épreuve, Dieu vous parle, l'épreuve, elle est presque réglée. Si vous êtes au chômage, que Dieu vous dit, bon, ben, tu trouveras du travail le 31 avril, l'épreuve, elle est réglée. Oui ou non? Mais une vraie épreuve, Dieu ne parle pas. Et pendant 40 ans, il est resté là, il a fait. Il était brisé, il était amoindri physiquement, psychologiquement, intellectuellement, tout ce que vous voudrez. En fait, quand on a 80 ans, ce n'est pas le genre de gars qu'on choisirait, nous, pour faire quelque chose d'aussi grand. Et je vous rappelle qu'à part, l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, je pense, bon, parlons pas de Jésus, c'est le Fils de Dieu. Je pense que le plus grand homme qui a vécu sur la terre, c'est Moïse et Paul. Mais sérieusement, Dieu a jugé bon, et il sait, le Seigneur, ce qu'il faut que l'on traverse. Mais il faut qu'il y ait ce feu qui brûle. Il faut qu'à un moment donné, un feu. Parce que le feu, ça fait quoi, le feu? Le feu, ça éclaire. Ce matin, si la parole de Dieu est comme un feu, elle devrait nous éclairer, à moins que vous vous en teniez loin. Ce n'est pas parce que vous êtes prêt. Vous pouvez être le plus proche de moi et être très loin de Dieu. Vous pouvez avoir la parole sur les genoux et être très, très, très loin de Dieu. Le feu, il a le pouvoir d'éclairer. Le feu, il a le pouvoir de réchauffer. Le feu, il a le pouvoir de purifier. Et chose extraordinaire, le feu a le pouvoir d'embraser. Ça, c'est le top niveau. Lorsqu'un chrétien est rempli du Saint-Esprit, il a la possibilité d'embraser les autres, c'est-à-dire de communiquer ce feu aux autres. Alléluia. C'est ce que nous voulons, que notre témoignage. Parce qu'en fin de compte, des fois, on dit, ouais, les gens, ils ne comprennent pas, les gens ci, les gens là, ils n'écoutent pas. Ben, c'est peut-être pas d'eux. C'est peut-être aussi nous qui, par notre témoignage, et sommes complètement froids, comme ces deux disciples le jour de la résurrection, qui étaient dans une froideur pas possible. Et heureusement, heureusement que Dieu ne nous abandonne pas quand on est dans la froideur. Donc Moïse, il va faire une expérience. Ce feu va l'amener enfin à être l'homme qu'il devra être. Et mes frères et sœurs, écoutez bien. Parce que certains d'entre vous êtes frustrés de ne pas avoir fait de progrès. Vous êtes frustrés de pouvoir dire, mais moi l'an dernier, tiens, le 1er janvier, on va faire le bilan bientôt. Mais est-ce que j'ai fait des progrès? Non, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Est-ce que j'ai fait de progrès depuis le 1er janvier 2015? Non. Ça vient de qui? De Dieu? Ça vient des autres? J'ai pas fait de progrès parce que les autres sont comme si, parce que je suis entouré d'inconvertis, parce que je suis entouré de gens charnels. Voilà pourquoi je n'ai pas fait de progrès. C'est normal. Non. Si on n'a pas fait de progrès, c'est parce qu'on n'a pas été réchauffé par le feu de Dieu. Et nous sommes là ce matin, nous sommes conscients de cette grâce que Dieu nous accorde. C'est une grâce pour vous d'être dans la maison du Seigneur ou non? Est-ce que c'est un bienfait d'être ici? Vous savez, on pourrait être à l'hôpital, oui ou non? Est-ce qu'on pourrait être dans une maison de retraite, des personnes très âgées? Est-ce que vous savez que vous pourriez être à 20, 30 km dans une maison de repos ou de retraite? Ce qui serait déjà bien fait. Mais on pourrait ne pas être là. On pourrait ne pas être là pour maintes et maintes raisons. Et Dieu nous voit, il sait, il m'a certainement inspiré pour qu'on ait un moment de grâce ce matin, pas un culte de plus, pas une réunion supplémentaire, mais un moment où on dit, mais Seigneur, où j'en suis de ce feu? Est-ce que je ne ressemble pas à ces deux disciples, tout le temps en train de tout remettre en question, et on espérait que, et il aurait fallu que, et on ne comprend pas pourquoi? Vous savez, ce jeu-là, il n'est pas bon. Ça peut aller un petit moment, mais quand je vois les chrétiens qui ont rétrogradé, souvent, et pourquoi Dieu a créé l'enfer? Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas, je ne sais rien, moi. Mais, non, mais sérieusement, est-ce que quelqu'un sur la terre est habilité à poser ce genre de questions? Pourquoi Dieu a fait ci? Pourquoi Dieu a fait ça? Mes frères et sœurs, on devrait dire, Seigneur, tu l'as fait. Il y a une raison. Quand on commence, je peux vous dire, à poser des questions à Dieu comme si c'était loupé, laissez-moi vous dire qu'on n'est pas en train de s'approcher de lui et qu'on n'est pas en train de mettre des braises ou du bois sur le feu. C'est exactement l'inverse. Mais Dieu, dans sa bonté, sait nous rejoindre. Il a attendu 40 ans, il a rejoint Moïse. Vous pouvez regarder comment chaque fois ça s'est fait. C'est extraordinaire la patience, la bonté. Je comprends pourquoi il est dit que la patience de Dieu est notre salut. Nous, on se décourage. Quelqu'un, il fait une boulette 10 fois. Celui-là, il ne sert à rien. Quelqu'un est en retard 20 fois de suite à telle réunion. On dit, mais il est infidèle. Nous, on évite de passer par les échecs des gens ou la désobéissance des gens. Oui ou non? On évite contrarié. Celui-là, il ne fera jamais un serviteur de Dieu. Il n'est même pas capable de. Moi, je ne vois pas les choses pareilles. C'est vrai que Dieu regarde au cœur. Et qu'à un moment donné, il faut, même si le Seigneur est capable de nous encourager, d'ailleurs ils l'ont dit, mais ils se sont regardés, mais t'as vu, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Et je crois, écoutez bien, je crois vraiment que chaque réunion, si j'arrive, attention, si la parole de Dieu apporte la pensée de Dieu, et si mon cœur est ouvert, parce que Dieu soit là, c'est évident. C'est même pas la peine d'en douter, il l'a promis. Il l'a promis. Est-ce qu'il l'a promis, Jésus? Que là où deux chrétiens se rassembleraient, il serait au milieu de nous. Donc, vous le croyez, vous le croyez pas. Si vous le croyez pas, vous êtes en train de rétrograder. C'est évident. Le Seigneur, il est là. Mais c'est pas parce que Dieu est là que votre cœur est ouvert. Et ça, c'est la condition sine qua non pour qu'il y ait cette connexion des deux. Et là, elle y était, puisque le Seigneur s'est approché, il aurait pu leur approcher leur incrédulité, leur cœur inintelligent, je ne parle pas d'une instruction intellectuelle humaine, il parle ni de l'intelligence spirituelle. S'ils avaient bien écouté que Jésus avait dit, je ne sais pas combien de fois, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des sacrificateurs, et il sera jugé, et il sera condamné, et on l'arrêtera, on le livrera, on le crucifiera. Il n'a pas dit plusieurs fois? Est-ce qu'il ne le disait pas régulièrement? Il y en a, mais non, c'est pas possible. Bon, s'ils avaient écouté, ils auraient dit, mais c'est même si la peine était là, Jésus l'avait dit. Vous savez, franchement, vous avez vu le nombre de fois où Dieu parle que sa colère va venir. Vous l'avez lu? Vous l'avez lu combien de fois? Mais les gens, ils prient, ils continuent à prier, Seigneur, qui est la paix sur la terre? Écoutez, moi, je vais vous dire, je ne veux pas vous décourager, mais la paix, elle ne viendra pas sur la terre. La paix ne peut pas venir sur la terre. Le seul endroit où la paix peut venir, c'est dans le cœur d'un disciple. C'est le seul endroit où la paix de Dieu peut être, dans le cœur d'un de ses enfants. C'est la colère de Dieu qui va venir sur la terre parce que les gens ont rejeté Dieu. Et il doit y avoir ce feu pour que l'on puisse aider les autres. Vous n'avez pas envie d'être en bénédiction aux autres? Est-ce que vous avez envie d'être en bénédiction aux autres? Alors, il faut un feu. En préparant ce message, j'ai beaucoup pensé à un pasteur qui n'avait pas eu de formateur. Il n'y avait pas eu de formateur. Je ne sais pas si c'était bien, je crois que c'était bien. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est arrivé sur la scène, il y avait 400 ans que Dieu n'avait pas parlé. Mais il était plein de feu. Parce qu'il aurait eu un formateur, il lui aurait dit, écoute, Jean-Baptiste, t'as vu comment tu vas prêcher? Un pasteur, il ne s'habillait pas comme ça. Un pasteur, il met un costume. Hein. Vous avez vu comment il partait prêcher, Jean-Baptiste? Il aurait eu un formateur, il lui aurait dit, mais ben, Jean-Baptiste, tu t'as vu comment tu te nourris? Cet homme, il était rempli de feu. Parce qu'il marchait avec Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit. Et lorsqu'il parlait, il disait ce qu'il avait à dire de la part de Dieu. Des messages d'une chaleur, d'un feu pas possible. Vous connaissez le message de Jean-Baptiste? Vous connaissez la prédication de Jean-Baptiste? Lorsque des gens venaient, ils venaient, certains étaient sincères, certains étaient hypocrites, c'est sûr, le contexte nous le prouve. Mais des gens venaient, toutes sortes de gens, des riches, des pauvres, et sur des fois des religieux se sont approchés de lui. Ils venaient se faire baptiser, tout le monde prend le baptême, vive le baptême, tout le monde prend le baptême, alors on se fait baptiser. Et Jean-Baptiste n'a pas dit, ah, c'est formidable, des Sadducéens qui viennent, des pharisiens qui viennent au baptême. Youpi! Non. Écoutez bien. Parce que dans le cœur de Jean-Baptiste, il y avait une chose. C'était l'amour de Dieu. Bien sûr que quelqu'un de charnel, de superficiel, quelqu'un de léger, va voir dans les paroles de Jean-Baptiste, c'est de la dureté, une espèce de règlement de compte entre religieux. Non, dans les paroles de Jean-Baptiste, il y a l'amour de Dieu, qui dit à ces hommes religieux qui se croyaient supérieurs parce qu'ils avaient leur religion à la pointe à l'époque, il va leur dire, mais race de vipères, race de vipères, c'est... Est-ce qu'on est prêt à entendre un message pareil? Est-ce que nous sommes prêts à entendre que Dieu me dise, te dise, tu as une race de vipère. Tu as deux façons de parler. C'est ça une race de vipère. Vous savez comment elles sont les vipères? Elles ont une langue fourchue. Ça veut dire deux langages. Je suis religieux et en même temps je suis mondain. J'aime Dieu et en même temps j'aime le monde. C'est ça. Et il leur dit, mais race de vipère! Et il ajoute, qui vous a appris à fuir la colère à venir? À fuir la colère, mais ils auraient pu dire, attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Nous, on s'approche d'un serviteur de Dieu et tu nous racontes qu'on fuit la colère? Oui, on peut être à l'église et ne pas comprendre que la colère de Dieu, elle vient. J'insiste souvent ces temps-ci. Mais mes frères et sœurs, il faut que nous nous rendions tous à l'évidence. La colère de Dieu, elle vient. Si Jean-Baptiste a dit ça il y a 2000 ans, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu, je ne vois pas quel est le serviteur qui se tromperait en redisant le même message 2000 ans après. La colère de Dieu, elle vient. Vous savez, je vous fais allusion depuis un mois. Depuis qu'il se passe plusieurs choses dans le golfe persique. Je vous fais allusion à quelque chose, c'est à Ézéchiel 38 et 39. Je vous l'expliquerai, je veux le faire comme il faut en son temps. Dans Ézéchiel 38, c'est après la restauration d'Israël. Ézéchiel 37, c'est, n'oubliez pas que c'est un texte qui, dans l'Ancien Testament, qui est surtout un texte pour les Juifs. Dans Ézéchiel 37, il y a Israël qui revient chez lui. Ézéchiel 38 et 39, il y a une guerre qui est appelée la guerre de Gog et de Magog. Une guerre qui va se dérouler après l'enlèvement. Et il y a un texte dans Ézéchiel 38, 18, qui m'a interpellé dans la nuit, une nuit, cette nuit, dans la semaine. Ézéchiel 38, au verset 18. Le jour où Gog marchera justement contre la terre d'Israël. Ézéchiel 38, verset 18. J'ai regardé dans la version du rabbinat. Vous savez que la version du rabbinat, c'est la version juive, française, de Zadokan, si vous ne l'avez pas, c'est bien que vous l'ayez. Ézéchiel 38, verset 18, « En ce jour, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. » Dans la version du rabbinat, il est dit « Ma colère me montera à la tête. » C'est un texte qui nous prouve que cette histoire, quand elle va se passer, c'est que vraiment la colère de Dieu sera venue sur la terre. La colère de Dieu va venir. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Et je m'adresse à ceux qui ne sont pas baptisés, à ceux qui ne sont pas repentis, à ceux qui ne se sont pas convertis, à ceux qui ne veulent pas d'une nouvelle naissance, parce qu'il y a plein de croyants dans les églises qui sont baptisés, mais qui ne sont jamais passés par la conversion. Mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Elle arrive, mais quand la colère de Dieu va lui monter à la tête, laissez-moi vous dire que ce sera trop tard. C'est pour ça que Jean-Baptiste le dit avec plein d'amour, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et Dieu peut nous parler, peut-être pas cette parole. Oui, pour moi, pour les gens qui ne sont pas convertis, s'il y a des gens, des ados, des enfants là, des jeunes, si vous n'êtes pas convertis, mais cette parole, de toute façon, elle est pour vous. Vous l'acceptez, vous ne l'acceptez pas, franchement, c'est votre problème. Mais elle est pour vous, cette parole. Je m'adresse, si vous n'êtes pas baptisé d'eau, suite à une repentance et à une conversion, elle est pour vous, cette parole, acceptez-la. Ne vous énervez pas, acceptez cette parole. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce que laissez-moi vous dire que quand cette colère va venir, il ne fera pas bon être sur la terre. Il faut vraiment prier que Dieu illumine les yeux de notre cœur. C'est ce que Jésus a fait dans la vie de ses disciples. Il ne leur a pas fait trop de reproches. Il leur a juste dit, mais ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas qu'ils les laissent parler en plus? Ils les laissent parler, ils ont fait, je ne sais pas, plusieurs kilomètres ensemble. Ils les laissent parler, on a besoin des fois de parler, on a besoin de répandre son cœur, des fois on dit des bêtises. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas trop méchant. Mais il y a un moment où on doit le laisser intervenir. Est-ce que vous permettez à Dieu de vous parler? Ou est-ce qu'il faut un problème grave pour qu'on s'arrête et qu'on l'écoute? Vous savez, cette nuit, je dormais pas, j'ai pas beaucoup dormi. Je réfléchissais à plein de textes. En plus, après, ça m'enchaîne dans plein de textes. Je pensais à une prophétie, une parabole, une explication que j'ai lue. Que j'ai lue, et c'était pas la bonne, je pense. Vous savez, quand les disciples demandent à Jésus, augmente-nous la foi. Vous vous rappelez cette histoire? C'est dans Luc 17, on va le dire, regardez bien. Je pense que ce n'était pas que pour moi. Parce que cette nuit, je pensais que c'était pour moi. Et maintenant que je suis là avec vous et que j'ai à cœur ça, je pense que c'est pour plusieurs, et peut-être des serviteurs de Dieu qui m'écouteront. Dans Luc 17, il y a un enseignement sur la prière, et les apôtres, touchés bien sûr par l'enseignement sur la prière, ils vont dire à Jésus, Luc 17, verset 5, « Augmente-nous la foi ». Et Jésus n'a pas dit, eh bien, je vais vous augmenter la foi. Non. Jésus n'a pas dit, je vais vous augmenter la foi. Voilà. Combien de pourcentage? Non. Jésus leur dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, je ne sais pas si vous avez vu un grain de sénévé, c'est très, 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 très petit, c'est comme un grain de poivre à peu près. Vous diriez à ce sycomore, déracine-toi. Verset 7. Regardez bien ce qu'il enseigne alors qu'on lui demande que la foi augmente. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou qui paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, scène-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » On pourrait se dire, mais quel maître dur! Le gars, il travaille toute la journée au champ, il rentre, et le maître qui représente notre Seigneur Jésus te dit, eh bien, continue à me servir. Et moi, j'ai vu 3 ou 4 explications, ou 10 peut-être. Mais j'ai compris cette nuit. J'ai compris. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Semer, c'est l'évangélisation. Paître les troupeaux, c'est l'édification, ce que je suis en train de faire. Celui qui sème et celui qui laboure, c'est-à-dire il sert Dieu. Mais quand tu reviens à la maison, c'est d'être avec le maître. Et je voudrais que vous saisissiez toute la différence. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas une question de travailler. C'est une question d'être en communion avec le maître. Il m'a fallu que 35 ans pour comprendre cette parabole. Mais je peux vous dire que cette nuit, le Saint-Esprit m'a parlé. Et j'ai compris, prêcher, servir, gagner des âmes, encourager, tout ça c'est bien, il faut le faire. Mais il y a quelque chose de plus grand, c'est que quand tu reviens à la maison, il faut que tu te retrouves avec le maître. Ce n'est pas de la dureté, c'est comme la prédication de Jean-Baptiste. Il y a des gens qui ont dit, mais c'est Jean-Baptiste, moi je n'aurais pas écouté un sermon. Eh bien moi je peux vous dire que je les aurais tous enregistrés. Mais en fait, ça ne marchait pas à l'époque. Être avec le maître. Est-ce que c'est important pour vous de servir Dieu? Pourquoi tant de gens font mal leur service? On leur demande de faire ceci, c'est presque une corvée pour certains d'être animateur de l'école du dimanche, d'être ceci ou d'être cela. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne connaissent pas cette affaire que les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs ont connue. Ils ne connaissent que la première partie, à savoir, ah, notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait en chemin? Ah, il nous expliquait les Écritures, beaucoup de vie spirituelle se résume à cette affaire. Oh, pendant la prédication, mais ça m'a fait du bien. Moi, je reçois tous les jours des mails. Oh, Monsieur Gau, vous êtes sévère, mais quand même, on sent de l'amour dans vos prédications. Bon, ça me rassure, mais mes frères et sœurs, c'est pas ça qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est que si le Seigneur réchauffe notre cœur, parce que quand même, il y a un peu d'ouverture, même si la bouteille n'est pas ouverte à fond, le Saint-Esprit arrive à s'immiscer un peu. Ah, ça me réchauffe, ça me fait du bien. De toute façon, je sais que c'est la vérité. Mais vous avez vu quand Jésus est arrivé à Emmaüs? Il nous est dit qu'il a paru vouloir aller plus loin. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est pas la première fois. Ils arrivent à la porte et Jésus continue son chemin. Non! Reste avec nous. Mes frères et sœurs, Combien de chrétiens vivent cette affaire? Oui, on a marché avec toi. Dimanche matin, on a marché avec le Seigneur. On était assis dans le temple. Mais franchement, on cheminait avec le Seigneur. La chorale, les cantiques, la Sainte Cène, la prédication, la communion fraternelle. On a marché avec le Seigneur. Tu nous as rejoints, Seigneur, malgré notre misère. Oui, le psaume 13, c'était bien qu'on le chante. Mais qui va dire « Reste avec moi, Seigneur ». Surtout que le soir approche et que le jour est sur son déclin. Qui va dire « Seigneur, reste avec nous ». Il faut quelque chose de plus qu'une bonne prédication. Il faut quelque chose de plus qu'il faudrait que je me débarrasse de mon Facebook, de mon Google. Il faudrait que peut-être même j'ai le courage de verrouiller tout ça pour que je me retrouve dans ta présence. Reste avec moi. Jésus est resté. Si vous l'invitez, il viendra. Il ne vous forcera pas. Je peux prêcher avec véhémence toute la matinée. Dieu ne vous obligera pas. Je m'étais levé il y a quelques années pour faire taire un gars ou une femme, je ne me rappelle plus, qui priait avec beaucoup de zèle. Seigneur, force-moi à faire ta volonté. Ben, j'étais obligé d'y aller. Je dis, écoutez, je suis désolé, mais ça ne marchera pas. Dieu ne nous force pas. C'est nous qu'on choisit de dire, Seigneur, reste avec moi. Je suis dans la froideur, je veux ce feu, mais je ne veux pas juste qu'il y ait un petit bouillonnement pendant une prédication. Seigneur, je veux que tu restes avec moi, je veux qu'il se passe quelque chose, je veux vraiment que tu ouvres mes yeux. Et vous avez vu, pendant qu'ils mangeaient, ils ont pris un repas. Le repas dans la Bible, c'est tout le temps l'image de la communion. En France, on le comprend très bien ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Aux États-Unis, ils mangent un sandwich, un burger, debout, sur plat, ils ont du mal à comprendre certains. Mais nous, on sait très bien ce que ça veut dire. La communion. Et pendant qu'il rompait le pain, il a prié Jésus. Pendant qu'il rompait le pain, vous l'avez lu avec moi, on le lit, on le relit vite fait. Enfin, vite fait, je vais te parler, parce que ça vaut la peine de s'y attarder. Luc 24. Vous avez vu la fin du verset 29. Il entra pour rester avec eux. Laissez-moi vous dire que si vous faites votre part, Jésus restera avec vous. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Alléluia. Voilà comment un homme retrouve le feu. Vous vous rappelez quand Jésus dit dans l'église d'Éphèse à l'Apocalypse, « Ce que j'ai contre toi, t'es une bonne église. » Si on le dit en français courant, on pourrait dire, « Mais t'es une bonne église. » Tu es une bonne église. Tu fais ci, je connais tes œuvres. Tu ne peux pas supporter les méchants. Jésus fait le descriptif de tout ce qui va. Moi, j'aurais aimé être pasteur de l'église d'Éphèse. Franchement, comme je le suis ici. Mais il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné le premier amour. Alors merci Seigneur pour tout ce que l'on fait et pour toutes les œuvres, nous ne devons pas dédaigner quoi que ce soit. Absolument rien, ça serait vraiment pas bien devant Dieu. Même celui qui donne de toutes petites offrandes, merci Seigneur. Vous êtes d'accord? Mais le Seigneur peut nous dire, voilà ce que j'ai, c'est qu'il n'y a pas ce feu, il n'y a plus ce feu. Et ce n'est pas avec une prédication, écoutez-moi, que ce feu reviendra. Jésus peut marcher avec vous tout le long des kilomètres que vous voudrez, et il faut rentrer dans sa maison et dire, Seigneur, reste avec moi. Vous savez, je l'ai déjà dit, j'en ai honte en même temps, j'en ai honte. Mais honte, j'ai vraiment honte, je le redis. Il m'a fallu un AVC pour comprendre ça. Je ne sais pas si vous réalisez le carton que j'ai pris, les preuves que j'ai traversées. Comme quoi, je comprends vite. Il m'a fallu un AVC bitalamique, un infarctus, plus. Pour que je m'arrête. J'en ai honte devant Dieu, j'en ai honte par rapport à vous. J'en ai honte, vous comprenez. Mais c'est vrai que c'est un piège, parce que pour les pasteurs et pour les serviteurs, c'est un piège décuplé, parce que c'est un vrai piège satanique. Parce que quand vous ne cherchez pas Dieu, qu'est-ce qu'on fait quand même? On n'est pas devant la télé, on est à droite toute la semaine. Moi, Monsieur Gau, venez me visiter, allez visiter telle personne. Mais si j'avais fait ce que l'on m'a demandé, qui était entre guillemets servir Dieu, je n'aurais pas pu recevoir ce que j'ai reçu ce matin. C'est impossible. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on serve Dieu dans la prière. En tous les cas, les pasteurs, Jonathan et Nicolas, prenez-en de la graine. C'est ce que Dieu nous demande, de chercher l'Éternel. Et au jour du jugement, il va y avoir de sacrées surprises. De serviteurs de Dieu. Je prêche ça parce que des pasteurs m'écoutent. Mes frères et sœurs, au jour du jugement, ah, ce frère, le jour des obsèques. Le jour des obsèques. Ce frère, quel serviteur. Quel homme de Dieu, toujours sur les routes, dévoué. Je ne suis pas tout à fait sûr que l'éloge sera le même lorsqu'on passera devant le Seigneur. Dieu demande à ses serviteurs qu'ils se tiennent à la brèche et qu'ils reçoivent sa pensée. C'est pour ça que je vous demande en boucle de prier pour moi. Est-ce que vous le faites? Vous devez le faire. C'est un devoir. Dans l'Église, au jour d'aujourd'hui, on n'accepte plus les devoirs. On veut des faux docteurs qui nous enseignent des trucs bien, des fables, etc. C'est un devoir. Je dois vous nourrir. Mais vous devez prier pour moi. Parce que ce feu, Dieu le veut. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le feu du premier amour. Alors ce matin, on peut le retrouver. Et dire, Seigneur, je veux rester avec toi. Je veux voir tes mains percées. Je suis persuadé. Enfin, il y a des chances que quand Jésus a rompu le pain, qu'il a distribué, peut-être que quand il a tendu la main aux disciples, peut-être qu'ils ont vu la cicatrice. Je ne sais pas. En tous les cas, ils l'ont reconnu. Mais de toute façon, quand vous resterez dans la présence de Dieu, laissez-moi vous dire que vous le reconnaîtrez. Ce Seigneur qui fait du bien, ce Dieu qui console, la consolation pour beaucoup de chrétiens, même dans le deuil. Mais c'est abstrait. La consolation, Dieu va te consoler. Oui, je crois, mais c'est pas vrai. Il n'expérimente pas la consolation. Vous croyez que Dieu est le Dieu de toute consolation? Vous croyez que Dieu peut consoler quelqu'un ce matin? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que Dieu peut restaurer quelqu'un, le guérir? Parce que toute cette affaire, c'est pas un reproche d'une sévérité terrible, comme race de vipère qui vous a appris. Tout ça, c'était plein d'amour. Quelqu'un qui n'a pas compris ça, il ne comprendra jamais rien. Jean-Baptiste était plein d'amour. Bien sûr que quand vous le regardiez, peut-être, en plus, des fois on a montré des films, on le voit avec tout comme un hirsute. Moi, je ne pense pas que c'était tout à fait ça. Je pense que ça devait être un homme rempli d'amour et de feu. Et ce qu'on a besoin, nous les chrétiens, vous les nouveaux, vous qui découvrez l'évangile, je ne sais pas ce que vous pensez. Je ne sais pas moi ce que j'aurais pensé la première fois si un pasteur avait prêché comme je suis en train de prêcher. Peut-être que j'aurais dit, il n'est pas bien ce gars. Peut-être qu'il a un problème. Je ne sais pas ce que j'aurais pensé. Mais je sais une chose, c'est que quand le Saint-Esprit agit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si Dieu est en train de vous parler et de vous dire, voilà, c'est ce qui se passe depuis 5 ans. Dieu réchauffe mon cœur à chaque prédication. Oui, mon cœur brûle au-dedans de moi. Mais le soir ou l'après-midi, la glace est déjà redevenue. Et je recommence mes semaines avec de la tristesse, froid comme un glaçon. Et je suis là et je me traîne vivement dimanche. J'espère qu'il y aura un bon message. Mes frères et sœurs, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Moi, je crois que la parole, elle est vivante, mais il faut qu'elle soit efficace. Alors, j'aimerais qu'on se recueille quelques instants. Vraiment qu'on se recueille et qu'on réponde. Qu'on réponde à cette parole. Les inconvertis, voulez-vous échapper à la colère de Dieu? Recueillez-vous, vous aussi, vous qui venez, vous qui n'êtes pas baptisés. Recueillez-vous. Ce n'est pas réservé qu'aux chrétiens de se recueillir. Vous qui n'êtes pas sauvés. Vous qui êtes là en pensant que ça peut vous s'accommoder avec Dieu de venir juste... Non! Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui? Eh bien, c'est le diable qui vous a appris ça, c'est sûr. C'est pas Dieu. Vous qui n'êtes pas baptisé, alors vous qui allez prendre le baptême cet après-midi, mais levez-vous tout à l'heure avec joie. Vraiment avec joie. Pour prendre le pain et le vin pour la première fois, et souvenez-vous que chaque fois, vous commémorerez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne vous chercher. Mais ceux qui ne sont pas baptisés, fuyez la colère à venir. Si elle était proche du temps de Jean-Baptiste, je le répète, laissez-moi vous dire qu'elle est très proche. Et que nous avons besoin d'entendre ce message. Fuyez la colère à venir. Dans l'Apocalypse, un ange pose la question... Il dit, mais qui subsistera? La colère est venue, qui l'évitera? Eh bien, ceux qui sont sous le sang. Si vous êtes couvert du sang de Jésus, la colère ne vous atteindra pas, parce que Dieu vous enlèvera avant. Seigneur, oui, reste avec moi. J'ai honte, Seigneur. Tu réchauffes mon cœur chaque mardi ou chaque dimanche. C'est vrai, Seigneur. Tu réchauffes mon cœur chaque dimanche. À peu près, plus ou moins, ça dépend de l'ouverture du cœur, de l'inspiration du pasteur, je sais, c'est vrai. Mais quand même, tu me réchauffes. Et le lundi matin, je retourne dans ma froideur, alors que j'aurais pu voir tes mains. J'aurais pu me nourrir. J'aurais pu me restaurer. Seigneur, reste avec moi. Qui ce matin fait cette prière dans son cœur? Seigneur, reste avec moi. Ça suffit. Tu m'accompagnes, tu me rejoins. Moi, je suis bouleversé par la patience de Dieu. Je suis bouleversé personnellement, mais par rapport à l'œuvre de Dieu. Je suis bouleversé par son infinie patience, son amour, bon, n'en parlons pas, mais sa patience infinie. Mais la Bible dit qu'un jour, Dieu mettra un terme à sa patience. Et que les gens seront mûrs pour la colère. Je sais pas à quel niveau le fruit est mûr, mais je pense que il est prêt pour la colère, le fruit. Alors dans ce moment qui nous incombe, dans ce moment de grâce, moi je crois que c'est un moment de grâce. Vous les pécheurs, vous les inconvertis, fuyez la colère, elle vient. Vous ne pourrez pas dire que dans ce lieu de culte, on ne vous l'a pas dit. Fuyez la colère à venir. Elle vient, la colère. Elle vient sur toute la terre. Elle va monter au visage de Dieu, aux narines de Dieu. Elle va lui monter à la tête. C'est écrit pour qu'on comprenne bien. Ça n'a pas été écrit pour la poésie. Ça a été écrit. Elle vient, cette colère, et vous le savez. Le seul moyen d'être couvert par le sang de Jésus. C'est pour ça que la Sainte Cène, je vous dis que c'est un immense bienfait. Parce que je me rappelle et je réitère mon engagement. Oui, je suis sous ton sang précieux.